Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 6 janvier 2016, en direct de Washington. Bagassi Koura et Anne Alberson. Voici les titres de l'actualité ce matin.
175 Maliens expulsés du Gabon sont arrivés à Bamako ce mardi. Premier témoignage.
Tu vas prendre quelqu'un, tu vas lui dire d'enlever la chemise et la ceinture, les chaussures, comme déjà il est pris comme prisonnier. On les maltraite.
Nouvelles allégations d'exploitation et d'abus sexuels commis par les casques bleus en Centrafrique.
La Corée du Nord annonce avoir effectué avec succès un essai de la bombe à hydrogène.
Le président Barack Obama a annoncé hier une série de nouvelles mesures visant à réduire la violence par les armes à feu aux États-Unis. Il contourne ainsi le Congrès sur une question qui divise profondément l'Amérique.
Dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
175 Maliens expulsés du Gabon sont arrivés à Bamako ce mardi. Selon leur premier témoignage, certains d'entre eux étaient en prison et ils disent avoir été maltraités par les autorités gabonaises. Il leur a fallu 2 semaines de route pour arriver à Bamako. Le point avec Kassim Traoré, notre correspondant sur place.
Les 175 Maliens expulsés du Gabon sont revenus les mains vides. Ils sont partis de Libreville à Bamako, en passant par Calabar au Nigeria, Cotonou au Bénin et Ouagadougou au Burkina Faso. Le problème principal semble être la non-détention de la carte de séjour.
Je m'appelle Keïta Mohamed Sekou. Oh, la carte de séjour, je crois, c'est dans les 800 000 comme ça.
820 000.
Pas les moyens pour prendre ça. Tu vas prendre quelqu'un, tu vas lui dire d'enlever la chemise et la ceinture, les chaussures. Comme déjà il est pris comme prisonnier, on les maltraite. Il voit 4 personnes sur un lit d'une place. C'était pas dans de bonnes conditions.
Parmi les 175 Maliens expulsés, tous n'ont pas le même problème, comme nous l'explique Bala Bagayogo, qui a passé un an en détention.
De un d'abord, moi je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon, j'ai passé toute mon existence au Gabon. Je suis parmi eux parce que j'avais les papiers gabonais. On m'a arrêté, soi-disant que c'est faux usage de faux. On me donne un mandat de dépôt sur le dos. J'ai ma famille là-bas, mon père au Gabon, ma mère au Gabon, mes petits.
Dès leur arrivée, des dispositions ont été prises par la protection civile afin de faciliter leur prise en charge. Comme ces 175 Maliens refoulés de Libreville, d'autres Maliens sont encore dans les prisons gabonaises. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En République centrafricaine, les réactions se multiplient au lendemain de la contestation des résultats provisoires des élections groupées du 30 décembre par une vingtaine de candidats à la présidentielle. Parlement et gouvernement de transition appellent les contestataires au respect des voies officielles de recours. Par ailleurs, l'autorité nationale des élections poursuit la publication des résultats provisoires de la présidentielle. Le point avec notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Au cours d'une conférence de presse ce mardi à Bangui, le ministre de l'administration du territoire, Modibo Bachir Walidou, a indiqué qu'il est inadmissible de remettre en cause les résultats de ces scrutins jugés crédibles par tous les observateurs nationaux et internationaux. Il reproche aux candidats le fait de ne pas envoyer leurs représentants assister aux étapes des élections depuis les bureaux de vote jusqu'à la Cour constitutionnelle de transition en passant par l'autorité nationale des élections. Au cours d'une entrevue dans la matinée avec une partie des candidats contestataires et 2 des favoris, le président du Parlement provisoire, Alexandre Ferdinand Guindy, a demandé aux différentes parties prenantes d'éviter de perturber le processus en cours, mais de porter leur requête devant la Cour constitutionnelle de transition. Entre-temps, l'Autorité nationale des élections poursuit la publication des résultats partiels et provisoires. Ce mardi soir, 53% des résultats globaux ont été rendus publics. Anissé Georges Doleguilé prend le dessus avec 179 236 voix contre 178 483 voix obtenues par Faustin Archange Touadéra à la tête il y a encore quelques heures. Progression également de Martin Ziguélé qui réoccupe la 4e place avec 70 883 voix derrière Désiré Bilal Zangakolimba, 3e avec 76 109 voix. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
On reste en Centrafrique avec ces nouvelles allégations d'exploitation et d'abus sexuels commis par les forces internationales. La mission des Nations Unies en RCA affirme avoir ouvert une enquête sur des actes commis par des casques bleus. La MINUSCA a indiqué que les employés de l'UNICEF ont rencontré 4 victimes présumées, toutes des filles. Il y a eu au moins 17 accusations précédentes d'abus sexuels commis par les membres de la mission de l'ONU dans le pays.
Et puis l'ONU envisage de réduire encore ses effectifs en République démocratique du Congo. Cette proposition, motivée par les progrès réalisés dans la lutte contre les groupes armés actifs dans l'est du pays, sera discutée la semaine prochaine par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Des détails avec Nani Talani.
C'est la deuxième fois en deux ans que l'ONU va réduire ses effectifs en RDC. Cette fois, 17 000 casques bleus vont quitter le territoire congolais compte tenu des progrès accomplis dans l'élaboration d'une stratégie conjointe de sortie et la réduction de la menace que constituent les groupes armés. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, estime que cette réduction ne compromet pas la capacité de la MONUSCO de s'acquitter de son mandat de protéger les civils, notamment par la neutralisation des groupes armés. Ces réductions sur le terrain ne changent pas le plafond des effectifs fixé à 21 000 soldats et policiers, si bien que l'ONU peut réaugmenter ses effectifs en cas de besoin. Ban Ki-moon propose aussi de réorienter davantage la MONUSCO vers des tâches de police dans la perspective des élections de novembre prochain. Il se dit profondément troublé par la montée des tensions politiques dans le contexte du processus électoral, par l'augmentation du nombre d'incidents en matière de sécurité et par les violations des droits de l'homme qui risquent de déboucher sur des troubles civils et des violences généralisées. Par conséquent, Ban Ki-moon encourage le président Joseph Kabila à engager un dialogue national visant à instaurer un consensus sur le processus électoral en cours.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 36 corps de migrants, dont plusieurs enfants, qui se sont noyés au large de la Turquie, ont été récupérés par les autorités turques. Selon des informations, leurs bateaux se sont renversés dans des eaux agitées alors qu'ils tentaient de rejoindre l'île grecque de Lesbos. 12 autres migrants ont été secourus. Dans l'immédiat, on ne savait pas le nombre de bateaux qui ont coulé, mais l'agence de presse Dogan croit savoir qu'au moins deux incidents distincts ont eu lieu.
L'organisation Médecins sans frontières a annoncé hier la fin des opérations de secours qu'elle avait mises en place l'année dernière en Méditerranée pour réduire le nombre de migrants et de réfugiés qui se noient en tentant de gagner l'Europe. Claire Morin-Gibourg.
Plus de 20 000 personnes ont été secourues au cours des 8 derniers mois par les 3 bateaux de MSF au cours de 120 opérations de recherche et de sauvetage. Des secours indispensables puisqu'en 2015, 3 771 migrants sont morts en tentant de traverser la Méditerranée, selon les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations. MSF appelle l'Union européenne à augmenter les ressources dédiées aux recherches et sauvetages en Méditerranée, soulignant leur importance pour sauver des vies. L'ONG appelle par ailleurs les pays européens à s'entendre sur un moyen de permettre aux demandeurs d'asile de venir en Europe de manière légale et sécurisée, ce qui leur éviterait de tomber sous la coupe des réseaux de trafiquants qui les envoient en mer sur des bateaux inadaptés et surchargés.
La Corée du Nord annonce avoir effectué avec succès un essai d'une bombe à hydrogène. L'annonce à la télévision d'État est intervenue après le recensement par les sismologues d'un tremblement de terre de magnitude 5,1 près de son principal site de test atomique. Le bureau sismologique chinois a estimé sur son site internet que cette activité sismique, survenue deux jours avant l'anniversaire du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, correspondait à une possible explosion.
Un soldat américain a été tué et deux autres blessés en Afghanistan. Cela s'est passé hier dans la province méridionale de Helmand, où les forces spéciales américaines menaient une opération antiterroriste.
Et puis enfin, ici aux États-Unis, la milice armée occupant depuis samedi les bureaux d'un parc national de l'État de l'Oregon dans le nord-ouest a fait savoir qu'elle compte y rester pour une durée indéterminée. Elle exige la libération de deux propriétaires de ranch condamnés à de nouvelles peines de prison pour avoir allumé des feux sur des terres fédérales protégées. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Dwight Hammond et son fils Steven ont reconnu avoir allumé les feux en question, mais soutiennent l'avoir fait sur leur propre terre pour détruire des espèces végétales invasives. Le feu s'est accidentellement propagé aux terres fédérales, ont-ils expliqué. Ils ont purgé quelques mois en prison pour ces faits. Toutefois, un magistrat a jugé ces peines trop clémentes au regard de la loi fédérale et infligé à chacun d'eux 4 ans de prison additionnelle. Le père et son fils se sont rendus aux autorités pénitentiaires. « Je vais en prison pour 5 ans pour une 50aine d'hectares », a déclaré Dwight Hammond peu avant sa reddition. L'arrestation des deux propriétaires de ranchs a déclenché la colère des autres agriculteurs et éleveurs de l'ouest des États-Unis. Venus d'un autre État, l'éleveur Amon Bundy et son frère Ryan ont, à la tête d'une centaine de personnes armées, occupé un parc national de l'Oregon. Ils exigent que le gouvernement fédéral retourne ces terres à leurs propriétaires légitimes, à savoir les éleveurs locaux. Le FBI et la police fédérale tentent de trouver une issue pacifique à cette confrontation.
Actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco et ce matin, c'est avec Anastasie Toudiès.
La BRMV, place boursière commune aux 8 pays de l'UMOA, affirme dans un communiqué être en tête des bourses africaines pour l'année 2015. L'organisation en veut pour preuve la belle santé de l'indice BRMV composite, en hausse de 17,77% au 31 décembre 2015, loin devant ses concurrentes marocaines, moins 7,22% pour la bourse de Casablanca, ou nigériane, moins 17,36% pour le Nigeria Stock Exchange. Cette performance est pour partie due à un second semestre 2015 particulièrement solide, ce qui ne doit pas faire oublier qu'en termes de capitalisation, de nombre d'entreprises cotées et de liquidité du marché, la BRMV demeure encore loin des grandes bourses africaines telles que celles de Casablanca, précisément Johannesburg ou Lagos. Le Sénégal va émettre des bons du Trésor par adjudication pour un montant de 60 milliards de francs CFA sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA. Une opération composée d'une seule et unique tranche. La date de dépôt des soumissions a été fixée au 7 janvier 2016 pour une durée de 91 jours. Les intérêts payables d'avance sont précomptés sur la valeur nominale des bons. Selon nos confrères de RFI, l'Afrique du Sud pourrait être exclue de l'AGOA, ce traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Afrique. Washington accuse l'Afrique du Sud de protéger son marché avec des lois anti-dumping sur la viande américaine. Pretoria, de son côté, affirme que les États-Unis déversent sur le continent africain des produits agricoles qui ne sont pas conformes aux normes sanitaires sud-africaines. Les deux pays n'ont pas réussi à se mettre d'accord avant la date butoir qui avait été fixée au 4 janvier 2016.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est sur VOA Afrique, c'est l'heure des sports. Bonjour Eric Manirakiza.
Bonjour Bagassi.
On commence par du football. La fédération ivoirienne exprime sa compassion à la famille de Steve Gohouri.
Oui, disparu depuis le 12 décembre, le corps de Steve Gohouri a été découvert jeudi 31 décembre dans le Rhin, au niveau de Krefeld, dans la banlieue de Düsseldorf. La fédération ivoirienne de football a exprimé hier sa tristesse et sa compassion à la famille du footballeur ivoirien qui totalisait déjà 13 sélections avec les éléphants.
Les étalons du Burkina Faso ont un nouveau sélectionneur.
Paulo Duarte, c'est son nom. Il a été présenté à la presse ce mardi matin à Ouagadougou. Sa mission principale, Bagassi, qualifier la sélection burkinabé à la CAN 2017 au Gabon.
En Europe, Rafael Benitez prend congé du Real Madrid et souhaite bonne chance à Zinedine Zidane, son successeur.
Un signe de fair play en tout cas, c'est dans une courte lettre d'adieu publiée sur son site internet que Benitez s'est adressé à la communauté des Meringues en souhaitant toutes les formes de chance à Zinedine Zidane, son remplaçant.
En Europe toujours, Schalke 04 refuse le transfert de son jeune prodige Sané.
L'international allemand Leroy Sané, convoité principalement par Manchester City, n'a que 19 ans Bagassi. Une offre de 55 millions d'euros mise en jeu constituerait le transfert le plus cher de l'histoire pour un joueur allemand. Mais le club a décidé de le garder. Et ce qu'il faut savoir, Bagassi, Sané est sous contrat avec Schalke jusqu'en 2019.
Eric, pour terminer, un regard sur quelques matchs de la NBA, le championnat nord-américain de basketball. Les New York Knicks ont battu Atlanta 107 à 101. Milwaukee est tombé face à Chicago 106 à 117. Et enfin, 117 également pour Dallas face à Sacramento qui a eu 116. Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassi Koura de retour avec vous sur VOA Afrique. Place maintenant au dossier du jour. C'est ce mercredi que doit s'ouvrir à Arusha, en Tanzanie, des négociations inter-burundaises sous la médiation de Yoweri Museveni, le président ougandais. C'était une des recommandations de la médiation, mais la partie burundaise, représentée par le ministre des Relations extérieures, avait sorti un communiqué affirmant que cette date du 6 janvier n'a pas été décidée de façon consensuelle et que la partie gouvernementale burundaise ne sera pas représentée à Arusha. L'opposition, quant à elle, réunie au sein du CNARE2, avait plutôt accepté cette date et demande l'envoi de la force africaine pour la protection des citoyens. Reportage de Christophe Nkurunziza depuis Bujumbura.
Djangwa Beko est le président d'une organisation de la société civile qui est proche du parti présidentiel, le CNDD-FDD. Il était présent à Entebbe à Kampala lors de la relance d'un dialogue inter-burundais entre le gouvernement qui était représenté par son ministre des Relations extérieures, Alain Nyamitwe, et le CNARED, Conseil national pour la restauration dans l'état de droit en sigle, représenté par l'ancien président du parti CNDD-FDD, Léonard Nyangoma, qui vit aujourd'hui en exil à Bruxelles. Pour Djangwa Beko, il est inutile de se rendre à Arusha en Tanzanie.
L'organisation n'est pas bonne, n'est pas claire. Il n'y a pas de date fixe pour entamer le dialogue à Arusha. Il n'y a pas de préparation. Même la logistique n'a pas été organisée. C'est pourquoi toutes les parties prenantes au dialogue ne vont pas participer. Même le facilitateur, son Excellence Yoweri Museveni, ne va pas se rendre à Arusha. Parce que lui-même sait que la date n'a pas été consensuel.
Pour le porte-parole du parti UPRONA, l'aile, qui n'est pas reconnue par le gouvernement burundais, la médiation n'a pas d'injonction à recevoir d'un gouvernement illégitime et illégal comme celui de ce troisième mandat que l'opposition conteste. Tassien Sibomana.
On avait déjà senti la chose venir. Maintenant que c'est officiel, nous déplorons bien sûr la démarche du gouvernement de facto de Bujumbura, qui ne nous surprend pas d'ailleurs, parce qu'il n'a nullement pas affiché la volonté de négocier. Seulement, nous lançons un appel vibrant à la médiation, parce que maintenant, il ne faut pas que la médiation se comporte comme si elle doit programmer les dates sur injonction du gouvernement, parce que le gouvernement est une des parties en conflit. D'ailleurs, c'est la cause de tous les maux qui s'écoulent au Burundi. Donc la médiation doit prendre la chose au sérieux et considérer que tout jour qui passe est un jour de plus de malheur pour les Burundais, et parce que les gens continuent à mourir, les gens continuent à être enlevés, les gens continuent à être torturés, à être emprisonnés sans aucune raison valable.
Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le chef de la diplomatie tchadienne a animé une conférence de presse ce mardi à N'Djamena. Moussa Faki Mahamat a abordé des questions liées à la situation de crise dans certains pays frontaliers et leurs répercussions sur le Tchad. Le point avec André Kormadjingar.
Au cours de cette conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, informe que le Tchad a joué un rôle diplomatique et militaire très déterminant dans les crises qui secouent l'Afrique et le monde entier. C'est ce qui a permis, dit-il, au Tchad de disposer de 25 ambassades ayant des juridictions sur une centaine de pays et 8 consulats. De même, la dynamique impulsée à la diplomatie a permis au Tchad d'accueillir sur son sol 23 ambassades étrangères et une dizaine d'organisations internationales et sous-régionales. Il rappelle que le mandat du Tchad au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2014-2015 a été marqué du fait des initiatives qu'il a prises, comme l'adoption de la résolution mettant en exergue la corrélation entre le terrorisme et la criminalité transnationale. Moussa Faki Mahamat déplore que la configuration actuelle de l'ONU ne reflète pas les relations internationales.
Vous traitez des problèmes de quelqu'un, vous décidez à sa place. Alors que nous faisons 1 milliard d'habitants, il nous faut au moins 1 ou 2 postes comme membre permanent du Conseil de sécurité pour porter nous-mêmes nos problèmes et pouvoir amener notre concours à la gouvernance internationale.
Faisant le bilan de la guerre contre le terrorisme, Moussa Faki Mahamat a déclaré que le Tchad a consenti d'énormes sacrifices pour ramener la paix dans la sous-région. Cependant, il adopte la langue de bois quant au bilan financier.
Nous avons perdu pas moins de 100 ans entre nos interventions au Niger, au Cameroun et au Nigeria. C'est une opération qui nous a coûté des hommes, elle nous a coûté du matériel, elle nous a coûté de l'argent, mais nous avions, de concert avec les troupes de ces pays, stoppé l'offensive de Boko Haram avec son armada et ses milliers d'hommes. Ce qui l'a obligé à changer
de métaux. Elle est plutôt dans la guerre asymétrique, notamment les opérations kamikazes. Et ça demande de revoir l'ensemble de la stratégie et arriver progressivement à éradiquer Boko Haram.
Le chef de la diplomatie tchadienne fustige par ailleurs le comportement et la lenteur de la communauté internationale qui, selon lui, n'a pas encore pris conscience de la nécessité de mutualiser les moyens pour lutter contre le terrorisme. André Koduma Dingar Ndiamena, La Voix de l'Amérique.
La Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme a dénoncé ce mardi un accroissement de la répression contre l'opposition à Djibouti. Eh bien, John Lindon a joint Florent Gel, il est responsable du Bureau Afrique à la FIDH.
À 4 mois de l'élection présidentielle à Djibouti, nous nous inquiétons d'abord de la multiplication des violations des droits humains, avec un massacre d'au moins 25 personnes le 21 décembre dernier. 4 militants dirigeants de l'opposition emprisonnés sous coup de procédure judiciaire et une opposition muselée.
Qu'est-ce qui, selon vous, est à l'origine de l'accroissement des répressions que vous dénoncez ?
Très clairement, c'est l'échéance de l'élection présidentielle d'avril 2016. Le président Ismaël Omar Guelleh, qui est à la tête de l'État depuis 16 ans, veut un quatrième mandat et veut passer en force. Et le dialogue politique qui avait été noué avec un accord cadre le 30 décembre 2014 est aujourd'hui lettre morte et le pouvoir veut réprimer son opposition pour être seul en lice pour l'élection présidentielle.
Et comment jugez-vous l'attitude de la communauté internationale face à ce qui se passe à Djibouti ?
Décevante, puisque à part quelques condamnations de façade, aucune pression ne semble vraiment avoir été exercée à l'encontre des autorités djiboutiennes pour que la lumière soit faite d'abord sur le massacre du 21 décembre. On ne peut pas tuer impunément ses propres citoyens sans qu'une commission internationale d'enquête indépendante ait lieu. Et puis, deuxièmement, une forme de cécité, un aveuglement sur la situation à Djibouti, puisque au prix de cette stabilité, on va malheureusement, probablement, favoriser des tendances radicales. L'alternance et la prise du pouvoir par des voies démocratiques étant rendues pratiquement impossibles, il est à craindre dans les prochaines années de voir une opposition beaucoup plus radicale, voire armée, se renforcer à Djibouti.
La FIDH réclame son implication dans l'organisation du processus électoral à Djibouti. En quoi se résumerait votre rôle si jamais ce que vous demandez vous est accordé ?
On ne demande pas notre implication particulière dans ce processus électoral. On demande un processus électoral crédible, pluraliste, et transparents qui permettent aux partis de la majorité présidentielle et aux partis de l'opposition de concourir dans les mêmes règles et que chacun ait la possibilité de gagner, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à Djibouti dans les élections précédentes.
Est-ce que le gouvernement djiboutien réagit à vos dénonciations ?
Très peu. Le gouvernement djiboutien aujourd'hui d'abord nie le bilan des victimes, il tente de l'amenuiser. Deuxièmement, il parle de provocation, tente de mélanger un petit peu le terrorisme avec des questions de démocratie et d'ailleurs a fait voter une loi antiterroriste qui a pour but de placer le pays sous un état d'urgence permanent et qui lui permettrait d'avoir la main sur la sécurité et de réprimer encore plus durement l'opposition, les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes indépendants. Bref, toute voix contestataire.
Florent Gel est responsable du bureau Afrique de la FIDH. Il a été joint à Paris.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Voilà, le bras de fer entre l'Arabie Saoudite et l'Iran continue de dominer l'actualité internationale. Pour un éclairage sur les défis auxquels sont confrontés les dirigeants saoudiens, Timothée Donangmaye a contacté Rachad Antonios, il est professeur de sociologie et spécialiste du monde arabe à l'Université du Québec à Montréal.
Avant tout, il y a un problème majeur de légitimité. Le système saoudien est basé sur l'autorité d'un clan qui s'est approprié les richesses du pays et qui essaye de régner en ne laissant pas de pouvoir aux diverses communautés ni aux citoyens ordinaires. Et une de ces communautés, c'est la communauté chiite. Et donc, l'Arabie saoudite ne laisse pas une marge de manœuvre politique à cette communauté interne, ce qui cause un problème. L'autre problème, c'est le reste des citoyens, évidemment, qui sont sunnites, mais qui n'ont pas le droit de vraiment exercer leur pouvoir politique. Mais une partie importante des citoyens d'Arabie saoudite appuient le gouvernement parce qu'ils utilisent la religion comme justification et légitimation de ce pouvoir-là.
L'Arabie saoudite utilise le terrorisme pour justifier de nombreuses exécutions, 100 au total en 2015. Qu'en est-il ?
c'est une excuse tout à fait bidon qui n'a aucune valeur parce qu'ils ont exécuté des gens qui ne sont pas du tout terroristes, ils ont exécuté des poètes, ils ont exécuté des jeunes qui participaient pacifiquement à des manifestations. C'est un régime fondamentaliste et très violent, mais qui est notre allié le plus solide dans la région juste après Israël. Quand je dis notre, je parle de l'Occident en général. Comme ils servent les intérêts américains d'abord et les intérêts occidentaux en général, on les protège, on les défend, on les excuse. Mais en réalité, ils ont exactement le même comportement par rapport au droit à la dissidence. Ils ont la même vision du monde, le même comportement que le groupe armé État islamique.
Jusqu'ici, l'Occident s'est gardé de critiquer ouvertement l'Arabie saoudite. Est-ce que cela pourrait changer?
J'irai beaucoup plus loin qu'il s'est critiqué de les garder. L'Occident a fait tout pour les protéger, pour les armer, pour les défendre et pour les utiliser. Et une partie de la guerre qu'on voit en Syrie se fait à travers l'Arabie saoudite. Donc, ce n'est pas une question de protéger des gens qu'on n'aime pas trop. Ce sont nos meilleurs alliés. Alors là, on va lui adresser de petites critiques, mais fondamentalement, on va continuer à l'appuyer parce que parmi les pays arabes et musulmans, c'est un des alliés les plus sûrs. Et donc, l'Occident va continuer à les appuyer parce que l'Arabie saoudite, c'est le moyen, un des moyens à travers lequel l'Occident agit en Syrie pour déstabiliser le régime en place.
Voilà, c'était Rachad Antonius, professeur de sociologie et spécialiste du monde arabe à l'Université du Québec. Il a été joint à Montréal. Le président américain Barack Obama a annoncé hier une série de nouvelles mesures visant à réduire la violence par les armes à feu ici aux États-Unis. Il contourne aussi le Congrès sur une question qui divise profondément les Américains, Michel Joseph.
Le président Obama a visiblement cédé à l'émotion hier lors de la cérémonie organisée à la Maison-Blanche pour annoncer ses nouvelles mesures. C'était quand il parlait des victimes des fusillades de masse de ces dernières années en se rappelant Sandy Hook, l'école de Newton dans le Connecticut, où en 2012, 26 élèves et enseignants ont été tués.
Every time I think about those kids, it gets me mad.
Chaque fois que je pense à ces gamins, je suis furieux. En fait, cela se passe chaque jour dans les rues de Chicago. Donc, nous devons tous demander au Congrès d'être assez courageux pour tenir tête au lobby des armes et à ces mensonges. Nous devons tous le faire pour protéger nos citoyens. Nous devons tous demander aux gouverneurs et législateurs et commerces de jouer leur rôle pour sécuriser davantage notre communauté.
Par décret, Barack Obama va demander qu'un plus grand nombre de vendeurs d'armes obtiennent des permis et que soient vérifiés les antécédents de davantage d'acquéreurs. Ces mesures renforceront le respect des lois existantes et prévoient plus de traitements dans le domaine de la santé mentale, tout en élargissant les recherches dans le secteur technologique pour une plus grande sécurité des armes à feu. Le président a reconnu que ces mesures ne vont pas empêcher tous les crimes violents, mais elles peuvent, a-t-il poursuivi, aider à sauver éventuellement des vies et éviter aux familles la douleur de ces pertes extraordinaires en vie humaine. Les opposants à tout contrôle des armes ont aussitôt dénoncé les mesures présidentielles, arguant qu'elles vont porter atteinte au droit constitutionnel du peuple de détenir et de porter des armes. Pour le vendeur d'armes, James Hillen, du Texas, les nouvelles mesures ne sont pas nécessaires.
Nous avons le droit d'acheter des armes auprès des particuliers. Nous ne voulons pas d'enregistrement national. Cela mène à la confiscation des armes. Hitler, Staline, tous ces grands leaders, dit-il, avaient sarcasme, ont eu à confisquer les armes pour pouvoir mieux contrôler la population. C'est ce dont il s'agit ici.
Le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, considère, lui, qu'il s'agit là d'une dangereuse tentative d'abus de pouvoir de la part de l'exécutif. Et il a accusé le président de subversion de la branche législative du gouvernement américain. La décision du président fait suite à une série de fusillades de masse aux États-Unis l'année dernière, dont l'attaque terroriste de San Bernardino, en Californie, qui a fait 14 morts. Selon de récents sondages, un nombre croissant d'Américains appuie la vérification des antécédents de ceux qui cherchent à acheter des armes.
Voilà, c'est tout pour cette édition. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La présentation Bagassi Koura et Anne Alberson à la technique.